Les conditions dans lesquelles les lettres étaient acheminées à leur destinataire sont suffisamment variées pour qu'il vaille la peine de leur consacrer un cours entier, qui est placé logiquement entre la phase de rédaction et celle de la lecture du courrier. Une étude a été publiée par Bertrand Laffont il y a 20 ans à ce sujet. Elle n'était pas tout à fait complète et surtout de nombreuses données supplémentaires sont disponibles depuis. Nous allons commencer par examiner la riche nomenclature décrivant le métier de messager, puis nous verrons comment coexistaient des porteurs investis d'une mission personnelle, d'un côté, et puis, par ailleurs, un service de la poste qui était chargé d'acheminer le courrier. Et nous terminerons en examinant quels dangers ces messagers pouvaient courir, en particulier en temps de conflit. Si l'on considère le vocabulaire employé pour désigner des messagers, on ne peut manquer d'être frappé par sa richesse. Plusieurs mots ou expressions sont attestés, et la question qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure ces mots sont synonymes ou, au contraire, s'ils apparaissent côte à côte et doivent donc être distingués comme renvoyant à des réalités différentes. Il faut donc analyser ce vocabulaire en contexte et on peut distinguer quelques éléments d'opposition qui me semblent être l'angle d'approche le plus intéressant. Premièrement, différencier les messagers en fonction de leur statut. Le terme le plus fréquent est de loin celui de marchiprim. Chaparum, c'est le verbe qui signifie envoyer un message, le message se disant chiproum, mais il faut bien se rappeler que même si contextuellement beaucoup d'emplois de chiproum et de chaparum renvoient à des messages écrits, en tant que tel, le verbe et le substantif n'ont pas de rapport entre, n'ont pas de différence selon qu'il s'agit d'une communication orale ou d'une communication écrite. Et donc, un marchiprim peut très bien être le porteur d'un message oral qu'il aura appris par cœur au départ et qu'il restituera à l'arrivée. Donc, la présence d'un marchiprim ne suppose pas forcément l'existence d'une tablette. Et même lorsque le message était transmis sous forme de lettre écrite, le marchiprim n'était pas seulement chargé de transporter la tablette. Il devait être capable de discuter avec le destinataire de la lettre. On a de nombreux exemples de cela. Et c'est la raison pour laquelle on a parfois parlé à leur sujet d'ambassadeurs, ce qui pose néanmoins un problème, parce que la notion actuelle d'ambassadeur suppose une résidence permanente dans une capitale, et cela n'est que très rarement attesté à l'époque amorite. On a une variante, au lieu d'avoir marchiprim, on a shashipirtim, avec le pluriel shashipiratim, littéralement celui du message, et on ne voit pas, dans les différents emplois de ce mot, de différence avec marchiprim. Très différente est la situation du simple porteur de tablette, en acadien Wabil Tupim, qui désigne donc un simple facteur, et que l'on pouvait accessoirement charger au retour d'autre chose que d'une tablette. Par exemple, on a ce texte adressé à Mukanishum, qui dit ceci: « Prenez connaissance maintenant de cette tablette de moi et confiez les outils à celui qui la porte. » Autrement dit, le porteur de tablette à l'aller transporte une tablette. Dans la lettre, il y avait comme ordre de livrer un certain nombre d'outils et au retour, le personnage sera chargé non pas d'une tablette, mais de convoyer les outils en question. Il ne faut toutefois pas faire une différence trop marquée entre ces deux termes de marchiprim, messager, et de wabil tupim, porteur de tablette. Par exemple, une lettre de Yamtsum, qui était le commandant de la garnison mariotte dans la ville d'Ilansura, en Syrie du Nord-Est, écrite au secrétaire de Zimrilim, comporte cette demande: « Envoie-moi rapidement mon messager par qui je fais porter des tablettes à mon seigneur, ne le retiens pas, Il n'y en a pas d'autre dans mon district, et jusqu'à ce qu'il me rejoigne, mes yeux seront tournés vers lui. Et donc, vous voyez qu'il est question de mon messager par qui je fais porter des tablettes. Et donc, d'une certaine façon, les deux termes qu'on a tenté d'opposer ici se trouvent réunis. Deuxième critère de distinction, le mode de locomotion. Les textes mettent parfois l'accent sur la rapidité avec laquelle le messager se déplacera. Et nous avons deux termes qui correspondent à cette situation. Le premier est celui de ragboum, qu'on peut traduire par cavalier. Il s'agit de gens montés le plus souvent sur des ânes. Les chevaux commencent à apparaître au XVIIIe siècle avant notre ère, mais de façon très limitée. Et on a, par exemple, une lettre de Boukakoum qui indique le passage de messagers de ce genre sur la route entre Babylone et Marie. « Six cavaliers de mon seigneur, ainsi que deux cavaliers babyloniens, viennent de passer par ici. Ils étaient porteurs d'un message d'Ibalpiel. » Et on peut supposer que ce message était suffisamment urgent pour qu'on ait besoin de cavaliers pour le transmettre. Au contraire, les Lassimoum, littéralement coureurs, étaient des gens qui couraient à pied, mais qui se déplaçaient particulièrement vite. L'insistance sur la rapidité nécessaire apparaît dans pas mal de lettres. Par exemple, celle-ci qu'envoie Sammétar au moment où il négociait une alliance avec le roi de Courda. Et il termine sa lettre en disant « Quelles sont les consignes ? Il faut que Monseigneur me l'écrive et que rapidement, des gens légèrement équipés me fassent parvenir réponse à ma tablette pour que je fasse tout ce que me dira Monseigneur. Le 6 du mois d'Aboum, tôt le matin, étant à Kassapa, j'ai fait porter cette tablette chez Monseigneur. » Et vous voyez au passage que l'indication du lieu et du moment où la lettre a été envoyée correspond à ce qu'on avait déjà vu. C'est lorsqu'il y a des besoins particuliers que cela figure. Et ici, c'est pour que le roi sache combien de temps le message urgent a mis à lui parvenir. La vitesse n'était pas le seul critère. Il fallait aussi de l'endurance. C'est ainsi que lorsque la ville de Razama était assiégée, Yamtsoum, toujours lui, rappela au roi les instructions qu'il avait reçues. « Monseigneur m'a écrit ceci. Écris-moi d'urgence toute nouvelle qui te parviendra. En outre, veille au choix du porteur de ta tablette, donc un Wabil Tupim, qu'il soit résistant. » Autrement dit, quelqu'un qui puisse aller non seulement vite, mais voilà, on est dans le cadre de plus qu'un marathon, parce qu'entre Ilan Soura et Marie, on a plusieurs centaines de kilomètres, donc quelqu'un qui vraiment doit pouvoir aller vite et tenir le coup. Donc voilà deux façons de différencier les messagers, mais on relève aussi un certain nombre de termes génériques, comme celui de Alikoum, littéralement celui qui va, celui qui fait route, qui peut désigner des messagers, mais aussi d'autres personnages qui voyagent. On a également le mot de Nashparoum, qui est employé rarement dans les textes de Marie, et on ne voit pas très bien quelle différence ça peut avoir par rapport au simple Marchiprim, mais on trouve ce terme sous le kalam du gouverneur de Sagaratum, Yakimadou. Et c'est intéressant parce qu'il s'agit d'une affectation officielle. Naguère, lors du recensement, on n'avait pas mis à ma disposition de courrier Nashparoum. L'année qui suivit le recensement, trois hommes sont revenus à Sagaratoum et se sont mis à mon service. Ces hommes amènent à bon port chez Monseigneur mon courrier. Donc c'est manifestement un autre terme équivalent ici à celui de Marchiprim. Et puis, il existe des termes spécialisés dont le sens est plus ou moins sûrement établi. Les choses sont claires en ce qui concerne le mot « mutabritum ». Il s'agit de quelqu'un qui est chargé de l'annonce d'un déplacement. L'annonce d'un déplacement, c'est quelque chose qui est obligatoire lorsque une caravane, un groupe de personnes va aller d'un royaume dans un autre. Il faut l'annoncer à l'avance par ce qu'on appelle donc en acadien un tabritum, et le mutabritum, c'est le messager qui est chargé de procéder à cette annonce. Un exemple, dans une lettre de Yassimel, « Belchounou et moi, nous sommes rendus à Karana, et avant même notre arrivée à Karana, des gens chargés de m'informer du déplacement d'Askouradou sont arrivés vers moi, et ils ont déclaré, et ainsi de suite. » Donc ces gens chargés de m'informer du déplacement, c'est ainsi, par cette périphrase en français, que l'on traduit ce terme de « mutabritum ». Ce qu'on voit bien, par conséquent, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'une forme de messager spécialisé, comme le sont les coureurs à pied d'un côté ou les cavaliers de l'autre, mais il s'agit d'un terme qui décrit un rôle particulier joué à l'occasion par un messager. Donc n'importe quel messager peut être mutabritum, il devient mutabritum au moment où on le charge de faire une annonce de ce genre, et on verra tout à l'heure qu'il en va de même pour un autre mot qui est celui qui désigne les porteurs de bonnes nouvelles, les mubassirum. J'en viens à la question du service de la poste. Un texte inédit récapitule l'enrôlement, ce qu'on appelle en acadien la pikitum, des soldats effectués dans les jardins de Sagaratum le 8 du mois 12 de l'année 9 de Zimrilim, et c'est un document qui est doublement important. D'abord parce qu'il nous donne les termes qui désignent dans ce contexte des messagers, et on en trouve deux seulement, celui de Shashipiratim d'un côté et celui de Lassimou de l'autre. Mais l'intérêt principal de cette tablette, c'est de nous donner le chiffre des messagers qui sont mobilisés à un moment où Zimrilim part avec toute son armée en direction du royaume d'Alep pour apporter son aide au roi Yarimlim. Et vous voyez qu'on a 100 messagers du type Shashipiratim et 64 coureurs Lassimoum. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait inattendus. Jusqu'à présent, personne n'avait émis d'hypothèse quant au nombre de courriers ayant existé dans le royaume de Marie, mais c'est un chiffre qui est malgré tout tout à fait impressionnant. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est de savoir si il s'agit d'une situation exceptionnelle qui reflète le moment précis de ce départ en campagne ou pas. Eh bien, la réponse est non. Ces chiffres, en effet, peuvent être comparés avec un autre qui est limité au seul district de Sagaratum et qui montre l'existence dans ce district de 19 messagers Shashipirtim et de 22 messagers du type Lassimoum. Nous savons qu'il y a dans le royaume de Marie trois districts centraux, celui de Marie, la capitale, celui de Terka et celui de Sagaratum. On a deux provinces périphériques, mais qui ne sont pas soumises au recensement. D'un côté, Katounan, sur le Rabour, et au contraire, sur l'Euphrate en aval de Marie, la région du Souroum. Mais donc, ces recensements ne touchent que les districts centraux. Et donc, si l'on fait une règle de 3, eh bien, on voit que si à Sagaratum, on a 19 et 22, c'est un chiffre qui est, si on le multiplie par 3, on obtient à peu près le total de ce que nous indiquait la grande tablette générale. Et par ailleurs, on a un document administratif dans lequel le service des coureur Lassimoum donne le chiffre de 64, c'est-à-dire pratiquement le même que celui de la tablette dont j'ai parlé. C'est un texte, malheureusement, dont on n'a pas la date. Il est possible qu'il corresponde au même moment. Donc, si l'on en revient à ce rôle militaire, nous voyons que 164 messagers pour 4145 soldats, ça donne une proportion qui est tout à fait importante et qu'on retrouve dans un texte découvert à Tel Bia, qui lui donc date de l'époque de Yasmaradou, et on voit que pour le rapport est sur cette tablette de 120, sur 123 soldats, il y a 6 messagers Shashipiratim, donc quelque chose qui est à peu près du même ordre de grandeur. Autrement dit, le rôle militaire n'est nullement le résultat d'une situation exceptionnelle. on mobilise simplement les individus qui sont habituellement chargés du transport du courrier. Ce service de la poste semble avoir été exclusivement réservé au roi et à ceux qui étaient à son service, mais par ailleurs, on voit qu'il existait des détachements de coureurs dans les principales capitales qui étaient prêts à porter les lettres urgentes. C'est ce qui ressort en particulier d'une lettre du chef de musique Waradi Lichou, envoyée en mission à Alep, et qui écrit ceci « L'expédition de Monseigneur va bien. Le jour où j'ai fait porter chez Monseigneur cette tablette de moi, je suis entré à Alep. Le jour où en personne je suis entré à Alep, on a donné des instructions aux courriers, donc les Lassimou, au service de Monseigneur qui réside à Alep, et on les a expédiés vers Monseigneur. » Donc apparemment, il y avait ce groupe de personnes qui étaient en attente, et dès qu'on leur donne l'ordre de partir avec une tablette, ils se dépêchent aussitôt. J'en viens maintenant à la question de la gratification des messagers, gratification à laquelle ils avaient droit en temps ordinaire, mais particulièrement lorsqu'ils étaient porteurs de bonnes nouvelles. Il était d'usage de donner une gratification à des messagers, en témoigne une lettre de reproche, vous me direz encore une, adressée par Samsiadou à son malheureux fils Yasmaradou, où le grand roi reproche à son fils ses gaspillages, et il ajoute « Lorsqu'un messager de moi montera chez toi, que lui donneras-tu? Pourras-tu leur donner argent blanc ou grain? Où se trouveront argent et grain de toi que tu pourras leur donner ?» Ce qui sous-entend donc que une rétribution en argent ou en nature était la norme lorsqu'on recevait des tablettes via un messager. Cette coutume donc générale de rétribuer les messagers, elle est battue en brèche lorsqu'un roi, décrivant la misère qui est la sienne, demande au roi de Marie de ne pas rétribuer le messager qui lui apporte sa tablette. Alors le texte est tout à fait amusant. C'est une lettre d'Ibaladou, le roi d'Ashlaka, qui écrit ceci. « S'il plaît à Monseigneur, il ne faut pas que Monseigneur donne un cadeau à mon serviteur. » Voilà que j'avais emprunté 2 cycles d'argent et j'avais voulu les donner aux messagers de Monseigneur, mais ils n'ont pas accepté en disant « c'est trop peu ». Alors, on songe évidemment au problème de bakchich ou autre pourboire, n'est-ce pas ? Si on donne trop peu, il y a des gens qui peuvent s'en offusquer et dire « non, 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 non ». Et alors ici, l'affaire est retournée puisque du coup, le roi Ibaladou, vexé, demande au roi de Marie de ne rien proposer à son propre messager. L'annonce de bonnes nouvelles était parfois explicitement soulignée, comme dans cette lettre de Zuhadnim, qui écrivit sur la route entre Imar et Marie qu'il envoyait 2 individus en avant. Les nouvelles dont ils sont porteurs pour Monseigneur sont particulièrement bonnes. Mais la lettre ne dit pas de quoi il s'agit. On trouve aussi dans une lettre de Sametar cette indication « Ishkunadou m'a fait porter une tablette. Sans doute a-t-il remporté la victoire et en a-t-il fait porter la bonne nouvelle chez moi ?» Mais ensuite, Sametar indique qu'il n'a pas ouvert la tablette, qu'il a fait suivre au roi directement. Donc là, il y a un suspense insupportable. Il existait donc, je l'ai déjà dit, un mot spécial pour désigner le porteur de bonnes nouvelles. C'est le mot « mubassiroum », qui est construit sur la même racine que le verbe « boussuroum », qui signifie « apporter de bonnes nouvelles », et les bonnes nouvelles sont désignées par le terme « boussurtoum ». De façon très étonnante, le dictionnaire de Chicago a traduit le terme de « mubassiroum » simplement par « messager ». Mais à partir des 3 mêmes références qui se figuraient dans le CAD, Fischer, dans un article paru il y a 25 ans, avait donné la bonne traduction « porteur de bonnes nouvelles ». Si vous regardez aujourd'hui le site Archibab, vous pourrez trouver non pas 3, mais 13 références, et ça n'est pas complet, parmi lesquelles je relève notamment cette lettre d'Askoudoum. Les Mubassiroum qui me sont arrivés de chez les Bédouins ont passé la nuit chez moi. Jusqu'à ce que ces Mubassiroum m'arrivent, Je ne voulais pas croire à cette nouvelle, mais maintenant, ces gens ont continué leur route vers Monseigneur. Que Monseigneur se réjouisse. Donc, il y avait eu des bruits comme quoi une victoire, sans doute, avait été remportée. Ascoudum ne dit pas dans sa lettre de quoi il s'agit. En tous les cas, donc, c'était des bruits seulement, mais cette fois-ci, il y a des messagers officiels et qui sont chargés de porter cette bonne nouvelle des Mubassirum. Alors, dans ce texte, au moment où Jean-Marie Durand avait publié la tablette, on n'avait pas beaucoup de références et il avait traduit Mubassirum par héros. Mais le terme de héros, depuis, est davantage documenté à Marie et c'est le mot qu'on attend, celui de Nagirum. Donc, ici, le contexte montre bien la connotation particulière de ce terme de Mubassirum. Simplement, donc, encore une fois, c'est un sens contextuel, c'est un messager, et il se trouve que ce messager porte des bonnes nouvelles. On trouve également, dans les lettres de Tel Leilan récemment publiées, deux références. La première, « J'ai écrit à Monseigneur par des messagers Mubassirum à propos de la victoire que Yakun Hashar a remportée. » Et la seconde, un serviteur de Ahidabar, messager Mubassirum, est venu chez Halourabi et il a parlé en ces termes. Je viens de traverser jusqu'à Andarig avec une troupe de 6000 hommes. J'ai traversé parmi les Bédouins, parmi les moutons, cassures et les enclos des Bédouins. Puis il y a une cassure, il n'y a pas. Et ça se termine par réjouissez-vous, voilà ce qu'il a écrit à Halourabi. Donc on a bien une lettre écrite à Halourabi et qui est porté par un messager Mubassirum, et c'est une nouvelle qui est cassée pour nous, mais qui était manifestement réjouissante. Donc, ce mot de Mubassirum a une connotation particulière en fonction du contexte. Alors évidemment, la question que vous vous posez, c'est a-t-on un terme symétrique pour le porteur de mauvaises nouvelles ? À ma connaissance, ça n'a pas encore été identifié et rencontré. Et c'est tout ce que je puis dire dans l'état actuel de l'enquête. D'une manière qui ne vous étonnera pas, les porteurs de bonnes nouvelles étaient particulièrement récompensés, comme le montre ce document administratif, un anneau en argent pour le serviteur de Rayasumu qui a apporté une bonne nouvelle, Boussourtam. Et je relève au passage ce contre-exemple qui est d'autant plus intéressant. Dans une lettre, Ilish Nadi est venu chez moi m'annoncer une bonne nouvelle, et c'est le mot Boussourum qui est ici employé, mais j'étais sans doute préoccupé et j'ai oublié de lui donner un vêtement. Donc voilà, ça montre que normalement, il fallait absolument donner une rétribution à quelqu'un qui vous apportait une bonne nouvelle. J'en arrive au deuxième volet du cours d'aujourd'hui. La question de savoir quand est-ce qu'on a affaire à un système de relais ou quand est-ce qu'on a affaire à un système de porteur personnel. Nous verrons qu'il y a des cas où on confie la tablette à un individu qui fera tout le trajet et qui donnera la lettre directement au destinataire, mais que par ailleurs, il peut exister aussi un système de relais de poste, même s'il est encore rudimentaire. Le plus souvent, le porteur du courrier fait un aller-retour, comme le montre cette lettre, avec Sakkoum, le courrier Lassimoum, qui t'apporte ma tablette, mets-le en route et renvoie-le chez moi. Donc il est question d'une autre personne qui va faire le trajet retour. Donc le courrier fera bien l'aller-retour entre expéditeur et destinataire. Mais parfois, le trajet est un peu plus compliqué, comme le montre cette lettre d'un certain Kunaniya. Habdou Madagan m'a fait porter une tablette. La troupe est rassemblée à Ziniyan. Il a dit, je saute la citation, fin de citation, il m'a envoyé son serviteur et ce message. À présent, je viens d'envoyer à Monseigneur le porteur de sa tablette qui était venu chez moi, que Monseigneur l'interroge. Autrement dit, on a un trajet triangulaire. Le porteur de tablette a été envoyé par Habdou Madagan à Kunaniya, ensuite Kunaniya l'envoie au roi Yasmaradou, et finalement, on peut supposer que Yasmaradou le renverra à Habdou Madagan directement. Bien souvent, on confie la tablette à des gens qui font le trajet de bout en bout et surtout qui connaissent bien le trajet. C'est particulièrement nécessaire quand il s'agit de traverser la steppe entre Katna et Mari, comme le montre cette lettre. Autre chose, deux Tadmoréens, c'est-à-dire des gens de Palmyre, sont porteurs d'une tablette d'Ishriadou depuis Katna vers le roi, c'est-à-dire Samsiadou. Maintenant, je les ai envoyés chez Monseigneur, c'est-à-dire Yasmaradou, que Monseigneur les interroge et les envoie ensuite chez le roi. Le trajet est particulièrement difficile, puisque pour aller de Katna à Mari, on passe par, sinon le désert, au moins la steppe syrienne. Et on voit donc que c'est à des gens de Palmyre, qui est à peu près à mi-chemin, qu'on confie le soin d'acheminer le courrier depuis Katna jusqu'à Mari, et ensuite jusqu'à Shubat Enlil, où résidait vraisemblablement Samsiadou au moment où cette lettre a été écrite. Un autre exemple, toujours à propos de la steppe entre Katna et Mari, deux hommes de Nazala me sont arrivés disant « Nous sommes porteurs d'une tablette urgente, voici que je viens de les faire conduire chez Monseigneur. » Eh bien, la ville de Nazala a été identifiée depuis déjà longtemps, il s'agit de l'oasis de Karyatayn, et on voit par conséquent que on est un peu plus près de Katna, et là encore, il s'agit de faire le trajet de Katna, sans doute en passant par Nazala, puis, ça n'est pas dit, mais certainement par Palmyre, et ensuite, on arrive sur le Moyen-Euphrate à Mari. Certains textes nous révèlent l'existence de messagers spécialisés. Par exemple, Nursin écrit à Zimrilim depuis le royaume d'Alep, « Yasmaradou, un serviteur de Hammurabi, il s'agit ici du roi d'Alep, qui va toujours comme envoyé chez Monseigneur. » Donc, ce messager Yasmaradou, il est chargé régulièrement de faire la navette entre Alep et Mari. Et donc, il connaît particulièrement bien les interlocuteurs et c'est quelqu'un qui peut aider, bien entendu, à la discussion à distance entre les rois. Je passe maintenant à la question des relais. On a une lettre de Hammurabi, cette fois le roi de Babylone, envoyée au gouverneur de Mari, Bardilim, qui montre l'alternative entre l'utilisation de messagers de bout en bout ou bien la nécessité d'un relais. Je cite « Voilà que d'autre part, j'ai fait porter une tablette pour Zimrilim. » Autrement dit, Hammurabi a envoyé une lettre à Bardilim en personne et en même temps, il y a une lettre destinée au roi de Mari. Et le roi continue « Si tu fais continuer leur route aux soutéens que je t'ai expédiés, donne-leur de quoi s'équiper et expédie-les chez Zimrilim. Si tu ne fais pas poursuivre leur route aux soutéens que je t'ai expédiés, fais porter toi-même cette tablette à Zimrilim. » Autrement dit, tu peux faire continuer leur route à mes envoyés, je ne réclame pas qu'ils reviennent tout de suite chez moi, ou bien tu peux utiliser le service de poste du roi de Mari. C'est à toi de voir, et ça s'explique parce que au moment où cette lettre a été écrite, Zimrilim se trouvait à Ougarit, donc bien loin de sa capitale, et donc, évidemment, ce que je comprends du non-dit de la lettre, c'est « je ne t'oblige pas à me renvoyer mes messagers tout de suite, mais enfin, tes messagers seront certainement beaucoup plus capables de rejoindre le roi parce qu'ils savent exactement où ils se trouvent. Cela dit, les soutéens, c'étaient des nomades qui avaient l'habitude de parcourir l'ensemble du Proche-Orient, et donc il n'était pas du tout impossible que d'aller de Mari jusqu'à Ougarit soit quelque chose qu'ils aient déjà fait et qui ne leur posait pas de problème. » Un exemple de relais en période de guerre. Maintenant, je te fais apporter une lettre qui est destinée à Waratsin, que des courriers à Likoutoum la prennent et la portent à Waratsin, qu'ils prennent pour moi la réponse à cette lettre, fais-la moi porter. Donc on voit bien que le personnage à qui la lettre est adressée servira d'intermédiaire et les messagers feront de part et d'autre le trajet. Il y avait des relais qui étaient bien organisés, mais parfois, on est obligé d'improviser parce que les messagers sont tout simplement trop fatigués pour continuer leur route. Les messagers de Khaliradoun me sont arrivés de chez les Bédouins. Ces hommes étaient épuisés, aussi les ai-je gardés, et la tablette dont on les avait chargés pour Monseigneur, ainsi que la tablette dont on les avait chargés pour moi, je les ai fait porter chez Monseigneur sous scellé. » Et donc on voit bien ici l'intérêt des relais, ça permet d'aller plus vite dans l'acheminement du courrier, les porteurs n'ayant pas à faire de pause. Le mélange entre les différents types de courriers, d'une part, les messages écrits et oraux, d'autre part, peuvent donner lieu à des situations d'une très grande confusion. Et je vais essayer de vous résumer le plus clairement possible une affaire qui a été jugée très complexe et confuse par les intéressés eux-mêmes. Dans un premier temps, le roi Zimrilim avait envoyé à Kibridagan, le gouverneur de Terka, une lettre où il lui demandait d'envoyer un personnage qui s'appelait Yahadoum et qui habitait la petite localité de Sahri. Deuxième moment, Kibridagan envoie deux messagers à son voisin Yakimadou, le gouverneur de Sagaratoum, parce qu'en fait la ville de Sahri ne se trouve pas dans son district, mais dans le district voisin. Et donc, Yakimadou est chargé d'écrire à Yaparlim, qui est le maire de la ville de Sahri. Et il semble qu'à ce moment-là, il y a eu un problème et que le nom de l'habitant ait été modifié. Mais vous allez voir que c'est là tout le problème. Il semblerait qu'on ait demandé que ce soit un certain Yadirhaboum, et non pas Yahadoum, ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil, qui soit recherché. Alors, le Yaparlim répond en disant « Désolé, mais il n'y a personne du nom de Yadirhaboum chez moi. » Et Yakimadou fait suivre la tablette de Yaparlim à Kibridagan, qui la transmet au roi. Le roi, pas content, réprimande Yakimadou, et Yakimadou proteste dans ces termes que je cite « Monseigneur m'a écrit en ces termes. Moi, je t'ai écrit à propos de Yahadoum, habitant de Sahri, mais toi, tu m'as écrit à propos de Yadirhaboum. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Aucun courrier n'est venu ici. Deux hommes de Terka sont venus et ils m'ont dit ceci, Kibridagan nous a envoyé chez toi rapidement pour dire « Écris à Sahri afin qu'on y recherche Yadirhaboum et envoie-le-moi. » Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et aussitôt, j'ai envoyé deux serviteurs à moi chez Yaparlim, le maire de Sahri. Cet homme m'a écrit en ces termes. J'ai fait le tour de la circonscription, mais il n'y a pas de Yadirhaboum. J'ai respecté l'ordre sacro-saint de Monseigneur, mais ceux qui connaissent Yahadoum ne l'ont pas respecté. Alors la fin, très clairement, met en cause Yaparlim, qui devait très bien savoir que c'était Yahadoum qui était recherché, mais qui s'abrite derrière le fait que moi, on me demande Yadirhaboum, Yadirhaboum ne connaît pas. La lettre est intéressante parce que l'argumentaire de Yakimadou est à analyser à plusieurs niveaux. D'abord, il y a un reproche indirect au roi. Pourquoi le roi a-t-il écrit à Kibridagan et non pas directement à lui-même ? Aucun courrier n'est venu ici. C'est le premier point. Et ensuite, la question, elle est de savoir qui a commis l'erreur. Et là, très astucieusement, Yakimadou, vous voyez, ne nous donne pas de clé. Ou bien c'est Kibridagan qui s'est trompé lorsqu'il a donné ses instructions orales à ses messagers, ou bien ce sont les messagers qui se sont trompés lorsqu'ils ont délivré leur message. Et là, Yakimadou se garde bien trancher, mais vous voyez que la suite, au contraire, a lieu par écrit, et c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant de voir que la communication entre le maire de Sahri et son gouverneur va se passer par écrit, alors qu'il a reçu des messagers qui lui envoyaient un message oral. Donc, un texte qui est bien intéressant pour voir que la circulation de l'information pouvait donner lieu à des quiproquos parfois bien embêtants. Si l'on termine ces considérations sur la différence entre transport de bout en bout par une personne ou relais, eh bien, on doit se poser la question du rapport entre la mise par écrit des messages et le type de transport. En effet, on pourrait dire que, précisément, on a choisi d'écrire les lettres pour permettre qu'on n'ait pas à utiliser un messager de bout en bout. Du fait que vous avez une tablette écrite, eh bien, on pourrait se dire que on peut transporter la lettre par relais sans qu'il y ait une seule personne qui fasse tout le trajet. Mais on peut aussi réfléchir à cette situation dans un autre sens, en sens inverse. La segmentation du transport pourrait en fait être la conséquence de la mise par écrit du message. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis les lettres par écrit, eh bien, on s'est rendu compte que pour que les tablettes aillent plus vite, c'était plus simple de faire un système de relais. Donc ce ne serait pas le but, mais la conséquence. Pour dire les choses trivialement, j'ai un peu le sentiment qu'on se retrouve ici devant le dilemme de l'œuf et de la poule, et je vous laisse donc réfléchir sur cette question qu'il me paraît difficile pour l'instant de trancher, et on passe directement à une question très grave qui est celle des dangers du transport. Sam Siadou, dans une lettre à Kouwari, qui était en poste à Chicxaboum, dans la région du Kurdistan irakien, lui explique qu'il ne peut pas lui faire porter de cadeaux parce que les messagers doivent circuler en cachette. Je cite « Les routes sont dangereuses et les messagers circulent seulement en se cachant. Lorsque tu me rencontreras, je te donnerai le présent correspondant à tes bonnes actions. » Autrement dit, il n'est pas question, dans ces conditions, de charger les messagers avec des présents qui les auraient encombrés, ralentis et gênés dans leur mouvement. Quelles précautions doit-on prendre ? D'abord, des précautions d'ordre religieux. Il faut s'assurer, par l'intermédiaire des devins, que les messagers peuvent arriver sains et saufs. On a beaucoup de lettres qui en parlent. Par exemple, cette lettre du devin Askoudoum, « J'ai pris les présages pour le salut des messagers, ils ne sont pas bons ». De rechef, je les prendrai pour eux. Lorsque les présages seront devenus sains, je les expédierai. Autrement dit, on retient les messagers tant qu'on n'a pas eu le feu vert des dieux. Et la situation pouvait parfois s'éterniser, comme le montre cette lettre d'Ilin Mujda à Zimrilim. Naguère, monseigneur m'a parlé relativement au fait de retenir l'expédition de Katna. J'empêche ces gens de partir depuis 5 jours. Et leurs agneaux, à force d'interrogations oraculaires, viennent de s'épuiser. Si cela agrée à Monseigneur, qu'il m'écrive, afin que ces gens ne soient pas empêchés de partir, ils sont dans le plus complet désarroi. Une caravane est partie il y a 3 jours, il faut que ces gens partent avec la prochaine caravane. Donc, des gens qui sont retenus simplement parce que les présages sont défavorables. Alors, on voit que Idin Mujda demande au roi de passer outre, hein, si cela agrée à Monseigneur, qu'il m'écrive afin que ces gens ne soient pas empêchés de partir. Et c'est quelque chose qui peut nous paraître un peu étonnant, de se dire que le roi peut donner l'ordre qu'on passe outre au présage. Eh bien, on retrouve cela dans une lettre d'Ishmedagan à Yasmaradou. « Lorsque tu me feras porter cette lettre, donne des ordres stricts pour qu'on la fasse protéger durant le transfert. » C'est la fameuse lettre à laquelle j'ai déjà fait allusion qui doit décrire en détail une bataille qui a eu lieu. « Fais prendre les oracles pour le salut des porteurs de cette lettre. Ou bien que 30 de tes serviteurs les escortent jusqu'au fleuve et qu'ils retournent ensuite chez toi. » Donc l'alternative nous paraît très curieuse. Hein. Ou bien on a des oracles favorables, ou bien on prend le risque de partir quand même. Mais à ce moment-là, vous voyez qu'il y a 30 escorteurs, donc on prend vraiment des précautions. Le problème de la fiabilité des messagers se posait naturellement, et j'ai déjà cité un cas où la délivrance du courrier a donné lieu à une erreur. Je voudrais surtout souligner la discrétion à laquelle les messagers étaient tenus, et on voit que, dans certains cas, on peut parler de véritable trahison. Autre chose, au sujet de l'individu qui a servi de guide à Itsinabou, le messager des Chnouna, Monseigneur m'a envoyé le message suivant. Cet individu a révélé à Itsinabou, messager des Chnouna, toutes nos décisions. Fais-le entrer à l'ergastule, donc une sorte de prison. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Je me suis renseigné à son égard. Il n'est plus à Marie. J'ai donc aussitôt envoyé des ordres en bonne et due forme au maire et à leur lieutenant. Donc ici, ce n'est pas le messager qui trahit, mais son accompagnateur. Et il n'avait sans doute pas la conscience tranquille, puisqu'il a pris ensuite la poudre d'escampette et on n'arrive pas à mettre la main dessus. Ça veut dire qu'il savait très bien ce qu'il faisait et qu'il n'avait pas voulu prendre le risque de rentrer et d'être mis en prison. En dépit donc des précautions que l'on pouvait prendre, il y avait des échecs, c'est-à-dire des lettres qui étaient interceptées en période de conflit. On voit parfois Zimrilim lui-même donner des ordres en ce sens. À propos d'Ascouradou, il s'agit du roi de Carana, Monseigneur m'a écrit en ces termes : pourquoi les tablettes d'Ascouradou continuent-elles de passer et ne les saisissez-vous pas ? Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Donc ça revient à donner un ordre, ce type d'interrogation. Au moment de la guerre entre Zimrilim et un certain nombre de rois yaminites, eh bien, cinq lettres écrites par des devins au prince Soumoudabi de Michelan ont été interceptées et transmises au roi de Marie. Les identifier n'a pas été évident parce qu'elles étaient écrites à Monseigneur, selon l'usage de l'époque, et c'est simplement parce que dans une de ces lettres, Zimrilim était mentionné par son nom en tant qu'ennemi que Jean-Marie Durand avait pu repérer ce cas. Et c'était la première fois qu'on pouvait constater qu'on possédait dans les archives de Marie des lettres interceptées, et du coup, on s'est rendu compte qu'il y en avait toute une série d'autres qui n'avaient pas été repérées en tant que telles. On a vu Zimrilim donner l'ordre d'intercepter du courrier. On voit ici qu'il y a du courrier qui a bel et bien été intercepté et qui se trouve dans les archives de Marie. Mais Zimrilim a lui-même été victime de cette pratique, comme l'indique le gouverneur de Sagaratum, Yakimadou. C'est quelqu'un d'une localité qui s'appelle Nouabou qui a transmis au roi de Kourda une enveloppe contenant un message de Monseigneur. Et on est dans une période où il y a une hostilité entre les rois de Marie et de Kourda, donc on a bel et bien affaire à un détournement, une interception. Pour éviter cela, dans certains cas, le messager n'a qu'une solution, c'est de rebrousser chemin. C'est ce qu'indique Yassimel dans ce document. « Concernant le fait que mon rapport a tardé à parvenir à Monseigneur, le pays a été en guerre et mon messager n'a pas pu passer. De ce fait, le présent rapport a été retardé jusqu'à maintenant. » Ce qui est amusant, bien entendu, c'est que cette lettre n'est pas la première lettre qui a été envoyée. Manifestement, il y a eu une actualisation et une sorte de post-scriptum qui a été ajouté. Un cas d'interception intéressant montre que le messager ne portait pas seulement des tablettes. Dit à Sinenaya, ainsi parle Samiya. Précédemment, j'avais fait écrire une tablette, je l'avais remise à Aya Ahum et Ahum Lumu, et je les avais dépêchés. Mais en route, on s'est emparé d'eux. Maintenant, je viens de recommencer. J'ai fait écrire sur une tablette une copie du message antérieur, et je l'ai fait porter. Et je saute un passage, et ensuite vient cette indication pour nous intéressante. Naguère, j'avais remis 12 mines d'argent à Aya Ahum, et on vient de le piller en route. Autrement dit, le malheureux Aya Ahum, on lui a retiré non seulement les tablettes dont il était porteur, mais aussi l'énorme somme de 12 mines d'argent. Mais la lettre ne s'arrête pas là. Par ailleurs, Samsiya m'a envoyé le message suivant. Écrit chez Moutou Koumri, l'intendant de Kabra, pour qu'il pourvoie la maison en grains, en céréales bouroum et en sésame. En fait, je venais d'envoyer des tablettes à Moutou Koumri et Samsiya, mais on s'en est emparé. Et la lettre se termine en disant « En outre, écris-moi réponse, quelle qu'elle soit, aux tablettes qu'on t'a apportées. » Alors on sait qu'à ce moment-là, Samiya, l'auteur de cette lettre, était assiégé dans Shubat Enlil. Et manifestement, sa nouvelle tentative n'a pas eu plus de succès que la précédente, puisque cette lettre s'est retrouvée dans les archives de Marie, et par conséquent, elle a été, elle aussi, interceptée. Et sa pauvre épouse, Sinenaya, donc, attendait vainement du courrier, et son mari, Samiya, lui envoyait lettre sur lettre, et à chaque fois, ses messagers se faisaient prendre par les troupes du roi de Marie, et la tablette arrivait au palais de Marie. Jusqu'à présent, on a vu donc que c'était des messagers qui étaient interceptés. Mais par ailleurs, nous savons que les marchands disposaient d'un privilège qui leur permettait de circuler librement en temps de paix, mais aussi en temps de guerre. Et donc la tentation était grande, bien entendu, d'avoir recours à leur service pour faire passer du courrier. Mais il pouvait arriver que ces marchands soient fouillés et que des lettres dont ils étaient porteurs soient confisquées. Par exemple, Meptoum a fait fouiller une caravane de marchands venus d'Eshnouna et il rend compte au roi en disant « Je les ai fouillés à la recherche de tablettes en me disant « Il n'est pas impossible qu'ils fassent passer des tablettes pour quelque part. » Il y a d'autres témoignages de cette pratique. Par exemple, une lettre encore inédite de Laoum à Yasmaradou qui écrit ceci « Les marchands qui portaient la tablette de Soumouépour, le roi d'Alep, à Eshnouna, transportaient de l'huile de bonne qualité, comme de la marchandise, ils la transportaient. J'ai donné des ordres stricts dans la région de Yablia et en amont, et ils ont pris ces hommes, ainsi que la tablette de Soumouépour qu'ils transportaient à Eshnouna. » Autrement dit, on a une caravane qui descend l'Euphrate. « À présent, je fais conduire ces hommes et la tablette de Soumouépour à Monseigneur. » Donc là, voilà un cas d'interception réussi. Une autre lettre de la même époque est tout à fait intéressante. Samsiadou voulait empêcher la tribu des Yaïlanoum d'avoir un contact épistolaire avec le roi des Chnouna. Et donc, il fallait arrêter tous ceux qui circuleraient sans autorisation. Le Yaïlanoum ne va pas manquer d'écrire au sire des Chnouna. « Fais barrage ! Fais-le tant du côté de la limite stépique que du mont Ébir. Installe des patrouilleurs. Fais prendre et entrer à l'ergastul les messagers qui circuleraient sans demander l'autorisation ou les marchands qui circuleraient sans demander l'autorisation. Il est vraisemblable qu'ils vont se plaindre bruyamment. On doit quand même s'en emparer. » Donc on voit les marchands qui vont protester de leur statut d'immunité, n'est-ce pas ? Et pas question, on les met quand même en prison, l'affaire est trop grave. Et ici, marchands et messagers sont soumis au même traitement. Et lorsqu'on a conscience de cette immunité des marchands, eh bien, on comprend mieux l'étonnement du roi de Katna qui ne reçoit plus aucune nouvelle de Marie et qui écrit ceci. « Depuis le jour où j'ai appris cela, j'ai perdu tout courage. En effet, il n'y a plus de messagers de toi qui montent vers moi depuis longtemps. » La première fois, mon cœur n'avait pas porté foi à ces dires. Par la suite, mon cœur y a cru, étant donné qu'un messager de toi ne montait plus à moi. Déjà auparavant, lorsque les Touroukéens s'étaient livrés à des actes hostiles à l'intérieur du pays, vos messagers et les miens, vous les aviez retenus chez vous, vous ne laissiez même pas de marchands monter ici. Il n'y avait personne pour me renseigner. Aujourd'hui de même, les Touroukéens viennent d'interrompre le pas de mes messagers et celui des vôtres, aussi ai-je prêté foi à ces bruits. C'est une période dramatique dans l'histoire du royaume de Haute-Mésopotamie avec une révolte de ces Touroukéens. Et donc, la phrase qui m'intéresse ici, c'est « Vous ne laissiez même pas de marchands monter ici ». Donc, c'est le dernier point dans la rupture des relations et de la circulation des informations. Une lettre intéressante de Menihoum rappelle au roi sa conduite antérieure. « Il y a 2 ans, lorsque sont arrivées les tablettes du fils d'Amibadar depuis Eshnouna, et qu'il tentait de les faire passer par l'intermédiaire d'un marchand de façon dissimulée, je me suis emparé de ces tablettes et elles ont été ouvertes. Et aussitôt après que je les ai entendues, je les ai envoyées chez mon seigneur. Yassidagan les a lues en même temps que moi. » En écoutant la nouvelle contenue sur ces tablettes, j'aurais vraiment commis un crime de lèse-majesté. Et ensuite, il se sert de ce parallèle pour dire aujourd'hui, on m'accuse de collusion avec l'ennemi, mais j'ai bien prouvé à quel point je me conduisais bien. Les rois savaient parfaitement le risque qu'ils encouraient lorsqu'ils confiaient à l'écrit leur message. On y reviendra dans un prochain cours. Et Shaddoum Labua, roi d'Ashnakoum, pour se disculper d'accusations qu'il juge calomnieuses, énumère les fautes ou les imprudences qu'il aurait pu commettre. Et dans cette énumération, on a cette protestation. « Ai-je écrit à une ville ennemie et a-t-on intercepté mes tablettes ?» Donc ça montre bien que la pratique était courante. Le dernier point qu'il nous faut maintenant voir, c'est la question de savoir si on doit laisser passer des messagers ou si on doit les retenir. Bertrand Laffont avait très bien expliqué la coexistence de deux types de mouvements de messagers, qui sont désignés par deux mots différents. On a d'abord le mot « territum », sur la même racine que le verbe « terum » qui veut dire « s'approcher ». Qu'est-ce que c'est qu'une territum ? C'est un groupe de messagers qui veulent rencontrer le roi, que la capitale de celui-ci soit leur but ultime ou seulement une étape dans un déplacement plus grand. Et cela s'oppose à l'étictum, qui est construit sur la même racine que le verbe étecum qui veut dire traverser. Une étictum, au contraire, c'est un groupe de messagers qui traverse un royaume sans désir de s'y arrêter. Mais dans ce cas-là, la question est de savoir quel est le rapport du roi qui les envoie avec le roi dont ils traversent le territoire et qu'ils ne souhaitent pas rencontrer. Et dans certains cas, ces rapports sont loin d'être bons. Du coup, ces messagers peuvent être arrêtés en route. Et c'est ce que montre, parmi bien d'autres, cette lettre adressée par Hallourabi, qui était sur le Moyen-Euphrate au niveau de l'île de Beijan, en aval de Hanat, l'île de Sapiratum dans l'Antiquité, qui écrit à Meptoum, qui est le responsable de la région. Autre chose, Yapiradou et deux serviteurs, messagers d'Ishmedagan, trois messagers babyloniens, un messager arapréen, deux messagers, le nom de la ville est perdu, porteurs d'un ours, m'ont rejoint venant d'Ashur. Ils se dirigeaient vers Babylone. Autrement dit, on a affaire à un mouvement qui est un mouvement nord-sud, qui traverse le territoire du Souroum, mais ils ne demandent pas à s'arrêter. Ils sont retenus à Sapiratum par deux Vermois. Écris-moi ce qu'il doit en être. Tant que tu ne m'auras pas fait porter une réponse à ma lettre, je ne laisserai pas ces messagers aller à Babylone. Fais-moi porter rapidement une réponse à ma lettre. Donc ce Hallourabi a peur que, dans une période de tension entre Ishmedagan et le roi de Marie, eh bien, il puisse y avoir une demande d'aide militaire envoyée au roi de Babylone et par conséquent, il veut des instructions. On pourrait multiplier les citations de ce genre, mais il nous faudra passer à la dernière étape, à savoir la lecture des lettres, et je vous remercie de votre attention. Donc, nous faisons une pause de 2 minutes, et puis nous passerons au cours numéro 8 dans un petit instant. Après avoir étudié les conditions dans lesquelles les lettres étaient mises par écrit, puis transportées, il nous faut logiquement aborder le dernier volet de notre enquête, les modalités selon lesquelles les lettres étaient lues. Nous verrons d'abord, de manière générale, comment se posait le problème de la lecture, et ensuite la façon dont les rois prenaient connaissance des lettres qui leur étaient adressées par d'autres rois. Et la semaine prochaine, nous compléterons le tableau en étudiant la lecture par le secrétaire royal du courrier qui était adressé par les fonctionnaires et d'autres personnes que les rois. La technique de la lecture et l'identité des lecteurs sont des questions rarement abordées dans la littérature assyriologique. Et pourtant, les archives de Marie livrent quelques informations importantes à ce sujet. Lorsque quelqu'un lisait une tablette à autrui, il la lui faisait écouter. On emploie le verbe « shemum » écouter au factitif, ce qui donne « shushmum ». Et donc, celui qui prenait connaissance de la lettre qui lui était adressée, qu'il la lise lui-même ou qu'il se la fasse lire, l'écoutait, shemum. On a affaire, dans tous les cas, à une lecture à voix haute. Et cette conclusion est confirmée par le fait que le verbe lire, shitasum, est une forme particulière du verbe chasum, dont le sens de base est crier, appeler, donc quelque chose qui se fait à haute voix. Et donc on voit que, paradoxalement, en Mésopotamie, l'écriture ne servait pas à la lecture telle que nous l'entendons. Le destinataire d'une lettre l'écoutait, l'écrit n'était que de l'oral figé. Ce phénomène n'est pas propre au genre épistolaire, c'était le cas de toute la littérature. Songeons en particulier à tous les hymnes qu'on peut avoir et qui étaient récités, psalmodiés, selon des modalités qui sont plus ou moins bien connues. Il y a malgré tout un texte qui peut faire penser que certains scribes pratiquaient la lecture silencieuse. C'est une question qui n'a jamais fait l'objet de recherches systématiques en assyriologie, alors que la thématique a été maintes fois abordée par les spécialistes de l'Antiquité classique. Il y a un état de la question avec une bibliographie dans l'ouvrage édité par Cavallo et Chartier, Histoire de la lecture dans le monde occidental, avec un chapitre de Sven Bro sur la Grèce archaïque et classique, l'invention de la lecture silencieuse. Et au même moment paraissait un article de Gavrilov sur les techniques de la lecture dans l'Antiquité classique, qui contient un vigoureux plaidoyer pour l'existence de la lecture silencieuse bien avant l'époque de saint Augustin. Vous savez que saint Augustin raconte comment tout le monde s'étonnait de voir saint Ambroise de Milan lire en silence, n'est-ce pas ? Et pendant très longtemps, on a cru que ce texte était la première description de lecture silencieuse dans l'Antiquité, et on en est aujourd'hui complètement revenu. Eh bien, il me semble que l'existence d'une lecture silencieuse peut déjà être supposée pour la Mésopotamie, à partir d'un texte que j'ai déjà cité, mais avec une autre optique à ce moment-là, et donc que je reprends maintenant. C'est une lettre de Roulaloum, qui est le secrétaire du roi Yasmaradou, du roi Samsiadou, et qui écrit à Yasmaradou. Avec les tablettes qu'ils ont apportées pour le roi, donc Samsiadou depuis Katna, les messagers catnéens ont apporté au roi par erreur une tablette destinée à monseigneur, c'est-à-dire à toi, Yasmaradou. L'ayant ouverte, j'ai vu qu'elle était écrite à monseigneur, et je ne l'ai donc pas fait écouter par le roi. À présent, voici que je viens de faire porter cette tablette à monseigneur. Donc on voit en l'occurrence que le secrétaire de Samsiadou avait préparé la lecture du courrier en brisant l'enveloppe des lettres et en prenant connaissance de leur contenu avant de les lire à Samsiadou. Et il est très intéressant d'observer dans ce passage la différence que fait Roulaloum entre la lecture qu'il opère pour lui-même, « j'ai vu » en acadien « amour », et au contraire, celle qu'il doit éventuellement faire au roi, « oul ouchechme, je ne l'ai pas fait écouter par le roi ». Et il me semble qu'on a là un indice assez fort en faveur de la lecture silencieuse qui aurait déjà été pratiquée par les scribes mésopotamiens. Alors, on pourrait dire que Roulaloum a utilisé ici une tournure rapide, mais je pense qu'il faut prendre le texte au sérieux parce que Roulaloum aurait très bien pu s'exprimer de façon différente, et il aurait pu écrire « ayant ouvert la lettre, je l'ai écouté, Echmeshu, et j'ai constaté que, etc. » Et il n'a pas employé cette façon de s'exprimer. Alors, qui savait lire ? On a déjà vu la question, puisque vous vous rappelez qu'il était impossible de distinguer la question de savoir qui savait lire de qui savait écrire, et donc c'est lors de notre quatrième cours que nous avons montré l'existence de gens non spécialisés capables de lire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les scribes de profession qui sont capables de lire, on avait vu des fonctionnaires, des généraux, etc., qui étaient capables de déchiffrer au moins. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est la question de la compétence d'un côté, et puis savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie courante. Et on peut se demander si une sorte de souci de dignité ne poussait pas les élites à se faire lire leur courrier, alors même qu'ils auraient été capables de le faire eux-mêmes. Et surtout, à partir du moment où l'on emploie un scribe pour écrire la réponse, eh bien, il est d'une certaine façon naturel que le scribe lise d'abord la lettre qu'on a reçue. Innombrables sont les mentions où le roi, répondant à son correspondant, indique « j'ai écouté ta tablette que tu m'as fait porter ». Donc, comme on vient de le voir, écouter une tablette, c'est se la faire lire. mais les façons dont le roi se faisait lire les lettres qui lui étaient adressées pouvaient varier en fonction des auteurs. Et il y a deux catégories bien différentes, ou bien il s'agit d'une lettre envoyée par un autre roi, ou bien il s'agit d'une lettre envoyée par des personnes qui se qualifient de serviteurs, nous dirions aujourd'hui des fonctionnaires, ministres, gouverneurs, devins, que sais-je encore. Et donc, le reste du cours d'aujourd'hui va être consacré à la lecture de la correspondance royale, entendue au sens de la correspondance échangée entre rois, et c'est la semaine prochaine qu'on verra les autres cas. Lorsqu'il s'agit de lettres échangées entre des rois, le processus est en général toujours le même. Le souverain donne des instructions, ce qui se dit « tema murum » en acadien, à ceux que nous appelons des messagers, mais qui sont en fait des diplomates. Et ceux-ci, après avoir rejoint le destinataire, exposent ces instructions, ce « temum », qu'il s'agisse de la lecture d'une tablette ou de la récitation d'un message oral appris par cœur, les deux cas de figure existants, nous le verrons. Et cela se faisait lors d'une audience à laquelle assistaient en principe tous les messagers étrangers présents dans la capitale du roi à qui le message était envoyé. Un préliminaire se pose toutefois, comment l'envoyé devait-il se comporter vis-à-vis du roi auprès de qui il était chargé de transmettre un message. Eh bien, on a un texte de Marie qui est tout à fait intéressant. Il s'agit d'une lettre écrite depuis Alep par Ascoudoum, je cite, « Et relativement à Ililim, Yarimlim m'a entrepris ainsi. Il ne faudrait pas qu'on lui fasse des ennuis à propos de prosinèse ou prosternation. Yarimlim a en effet tenu ses propos. J'ai envoyé l'individu comme mon représentant personnel, en mot à mot, comme mon propre corps, qui m'a pagria. » Fin de citation. « Monseigneur ne doit donc pas exiger de cet homme la prosinèse ou la prosternation. » Autrement dit, le roi d'Alep indique qu'on doit considérer son messager comme s'il s'agissait de lui-même et donc ne pas exiger de lui qu'il se prosterne devant le roi de Marie. Et comme toujours, ce sont les exceptions qui nous permettent de définir la règle. Donc, normalement, les messagers devaient se prosterner avant d'adresser la parole au roi à qui ils étaient envoyés. On a une situation inverse où des messagers de l'empereur des Lames reprochent au roi de Kourda de ne pas se prosterner devant eux parce qu'ils représentent l'empereur élamite, le personnage le plus considérable de tout le Proche-Orient de l'époque. Le texte dit ceci, « Deux messagers élamites sont arrivés à Kourda, mais Hammurabi, donc le roi de Kourda à l'époque, n'est pas sorti au-devant d'eux faire la prosternation. » Les messagers élamites ont dit « Pourquoi Hammurabi n'est-il pas sorti à notre rencontre? Ne s'est-il pas prosterné et n'a-t-il pas offert bière et mouton ?» Par la suite, le lendemain, on les a calmés. Donc, incident diplomatique parce que l'étiquette n'est pas respectée. Et on a ici le même verbe « choukenoum » que dans la lettre précédente, un verbe qui signifie « se courber, se prosterner ». On peut se représenter la scène grâce à un bas-relief néo-assyrien beaucoup plus tardif, mais qui nous donne une idée du geste qui pouvait être fait dans ce cadre. Un envoyé de Zimrilim auprès des rois yaminites écrivit au roi de Marie « Lorsque mon seigneur m'a donné ses instructions, une affaire m'est arrivée et je n'ai pas interrogé mon seigneur au sujet d'une prosternation de ma part envers les rois. » Autrement dit, j'ai oublié de demander au roi, quand j'arriverai devant les rois yaminites, faut-il que je me prosterne devant eux ou pas ? Et donc, il poursuit sa lettre, « Il faut que mon seigneur m'envoie un message, dans un sens ou dans un autre, par un de ses coursiers, donc c'est urgent, afin que j'écrive à mon seigneur ce qu'il en est du fond de l'affaire. » Autrement dit, il ne veut pas rencontrer les rois auprès desquels il a été envoyé en mission tant qu'il ne reçoit pas des instructions. Ces rois yaminites, ils se sont rebellés contre Zimmerilim, et donc la question est de savoir est-ce qu'on leur fait sentir que, puisqu'ils sont des rebelles, on ne se prosterne pas devant eux, ou est-ce qu'au contraire, on juge que pour les apaiser, pour faire en sorte qu'ils rentrent dans le droit chemin, si on se prosterne, eh bien, c'est un geste qui permet d'améliorer les relations. Recevoir au Grand Trianon une puissance étrangère avec l'idée que peut-être ça servira à améliorer les relations. On est dans cet ordre de considération. Et comme souvent, donc, ce sont des exceptions qui permettent de connaître la norme. L'usage dans le Proche-Orient d'époque amorite voulait qu'on se prosterne devant un roi de premier rang, qu'il s'agisse d'un messager étranger ou d'un roi de rang inférieur. Et donc les messagers, après avoir salué conformément à l'étiquette, participaient à l'audience royale au cours de laquelle les différents messagers lisaient eux-mêmes la tablette dont ils étaient porteurs. On a un texte encore inédit qui montre que l'enveloppe était brisée devant le roi destinataire du message, pour lui garantir que le message qu'on allait lui lire, c'était bien celui qui était dans l'enveloppe scellée au nom du roi expéditeur. La scène suivante se passe dans le palais de Kourda. Imgur-Shamash a apporté chez Bunuishtar, c'était le roi de Kourda au moment de la rédaction de cette lettre, une tablette du prince, c'est-à-dire le roi d'Eshnouna, avec son sceau. Il l'a fait écouter à Bunuishtar, et voici ce qui était inscrit sur la tablette, et ensuite on a une citation. Il faut manifestement comprendre une tablette avec son sceau comme une tablette sous enveloppe scellée. C'est un raccourci. En l'occurrence, nous n'avons pas de regret à avoir que cette tablette n'ait pas été retrouvée. Elle a été ouverte à Kourda, donc de toute façon, on ne pouvait pas espérer la retrouver à Marie, mais nous avons une enveloppe au sceau du roi d'Eshnouna Ibalpiel qui a été retrouvée sur le site de Tel Harmal et qui nous permet de connaître le sceau du roi d'Eshnouna de cette époque-là. Un exemple d'audience est décrit par Ibalpiel. Alors là, il faut faire attention, cet Ibalpiel-là, c'est le représentant de Zimrilim à Babylone, à ne pas confondre avec le roi d'Eshnouna homonyme. Et cet Ibalpiel évoque l'envoi d'un messager par Meptoum, qui était, je l'ai déjà dit, le responsable de la région du Souroum, le long de l'Euphrate, entre Marie et le royaume de Babylone, région qui était en même temps limitrophe du royaume d'Eshnouna, donc une région extrêmement importante. Et Ibalpiel écrit ceci, « Un serviteur de Meptoum a apporté une tablette chez Amurabi, donc à Babylone, et nous, à savoir les mariottes présents à Babylone, sommes entrés en sa présence. Le serviteur de Meptoum lui a raconté les allées et venues du roi d'Eshnouna dans le haut pays même, et il lui a dit ceci relativement à l'armée du Yamrad. 10 000 hommes de troupes du Yamrad viennent de quitter la ville de Toutoul. On attend 10 000 hommes du Zalmakoum. Ils ont pour direction l'Idamaratz afin d'affronter Atamroum. Voilà ce qu'a raconté le messager de Meptoum, et Amurabi a dit ceci. » Donc, le texte est intéressant puisqu'il nous montre bien que le serviteur de Meptoum apporte la tablette et qu'il en donne lui-même lecture et que les messagers des autres puissances qui sont là à ce moment-là, eh bien, assistent à la lecture de ce message. Alors, dans un cas particulièrement délicat, on a un envoyé de Zimrilim auprès du roi d'Alep Yarimlim qui insiste sur sa fidélité au message dont il a donné lecture après en avoir pris connaissance. Donc c'est le barbier du roi d'Arishlibourg qui écrit ceci. « La tablette que monseigneur avait fait porter chez moi, destinée à Yarimlim, j'en ai pris connaissance. Le message de monseigneur, tel qu'il était inscrit sur la tablette, je l'ai exposé point par point devant Yarimlim et à Plaranda, qui est le roi de Carchemish et qui se trouvait à ce moment-là à Alep. Il pouvait arriver que le roi, destinataire du message, interrompe les messagers et de façon quelquefois un peu brutale. On a une scène absolument extraordinaire qui est rapportée dans ARM 26.2 384. Je me rappelle encore la jubilation avec laquelle j'ai déchiffré cette tablette il y a 30 ans et qui a été publiée dans ARM 26 sous le numéro 384. La scène se passe à Babylone. Les messagers d'Ishmedagan commencent par... exprimer les plaintes du roi Ishmedagan qui les a envoyées concernant le fait que Hammurabi ne lui ait pas envoyé de troupes alors qu'ils prétendent qu'il en a envoyé à d'autres rois. Et arrivé à ce point de leur message, eh bien, on a ceci. Hammurabi leur a répondu ceci. « À qui ai-je donné des troupes ? Dites, dites !» S'étant approché, il a répété 5 ou 6 fois sa question, les forçant à dire « Tu as donné des troupes à Tamroum ?» Et Hammurabi leur a répondu « Quelle troupe ai-je donné à Tamroum ? C'est une troupe de 300 ou 400 hommes seulement que j'ai fait conduire à Tamroum. » Et la troupe, et puis malheureusement ensuite, il y a une lacune. Donc on voit, n'est-ce pas, Hammurabi qui s'approche. Alors, évidemment, ce type de notation est d'une... nous frustre complètement parce que on voudrait savoir est-ce qu'il était assis sur son trône et on aurait aimé par exemple que l'auteur de la lettre nous dise se levant de son trône Hammurabi s'est approché, mais comme toujours on a des notations implicites. Tout le monde savait bien comment se passait une audience. Zimrilim n'avait pas besoin qu'on lui dise que s'étant approché ça voulait dire s'étant levé de son trône, mais voilà, c'est ce que nous pouvons supposer mais qui n'est pas dit de manière explicite et la lettre est loin d'être finie. Hammurabi leur a répondu « Pourquoi cachez-vous le reste de votre message ? Dites-moi votre message en entier. » Ils ont dit ceci, et puis là, malheureusement, il y a une cassure, et Hammurabi reprend la parole. « Il y a sûrement une autre nouvelle dont vous êtes porteur. » Eux de dire « Non, nous n'avons pas caché un rapport secret que ton serviteur t'aurait envoyé. Ne nous fais pas violence, notre seigneur s'étend sous tes pieds comme une carpette. Même s'il y a un autre roi qui te révère, il ne t'écrit pas de tels messages de soumission. » Comme les messagers d'Ishmedagan avaient dit cela, Hammurabi leur répondit en ces termes « Puisque vous ne voulez pas achever votre message, que mon serviteur qui est venu avec vous achève votre message. » Alors ici, ce passage ne se comprend que si l'on sait qu'au moment où le roi donne ses instructions et la tablette aux messagers qu'il envoie, il y a leur accompagnateur qui est un serviteur du roi destinataire du message. Et donc, cette personne, elle a entendu lire la lettre au moment du départ de la mission. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il va être capable de répéter le message. Autrement dit, ces gens-là avaient une mémoire tellement bien exercée qu'ils étaient capables de retenir par cœur. Je reprends la lecture. Hammurabi a convoqué son serviteur qui était venu, avec eux, donc, les messagers d'Eshna, et il a dit « Puisqu'ils ne veulent pas achever le message dont ils étaient chargés, à ton tour, toi, achève leur message. » Le serviteur d'Hammurabi, qui était venu avec eux, vint, après qu'il eut répété le message que les messagers d'Ishmedagan avaient délivré, entre parenthèses, il n'était pas présent jusqu'à présent, donc jusqu'à ce moment-là, donc il est capable de le faire parce qu'il a retenu le message, il le compléta en ces termes, « Zimrilim, à qui tu m'as fait écrire ?» À qui tu me fais écrire en tant que fils, cet homme n'est-il pas mon serviteur ? Il ne demeure pas sur un trône élevé, je n'ai donc pas écrit de salutation élevée. » À ces mots, Hammurabi s'écria : quel scandale ! Les messagers d'Eshmedagan ont nié ce message en ces termes : nous n'avons nullement été chargés d'un tel message, car depuis que nous sommes partis, Ilité, serviteur d'Ishmedagan, nous a rejoint en disant : ça n'est pas au sujet de Monseigneur Zimrilim que ce message a été envoyé, mais c'est au sujet d'Atamroum. Ah ah ! Ça ne convainc pas du tout Hammurabi, mais le message, en l'occurrence, vous le voyez, n'est pas écrit sur une tablette. Et c'est seulement arrivé à ce point qu'on arrive à le comprendre. Jusqu'à présent, rien ne nous permettait de dire s'il s'agissait d'un message écrit ou oral. Et donc, le message a été délivré oralement par Ishmedagan à ses messagers, lors d'une audience à laquelle assistait le représentant du roi de Babylone, et tous savaient par cœur le message. Simplement effrayés par la réaction violente d'Hammurabi, les messagers d'Ishmedagan ont freiné et ont refusé de continuer parce qu'ils se sont dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Alors, ça ne se passait pas toujours d'une manière aussi dramatique à la cour de Babylone, et voici au contraire un compte-rendu d'audience beaucoup plus serein. Yann Sibadou insiste sur l'attention que lui-même et un autre Mariotte ont reçue de la part d'Amourabi. Nous sommes arrivés à Sippar-la-Grande, donc l'affaire ne se passe pas à Babylone, mais dans une autre ville du royaume, et Yann Sibadou, le serviteur de Monseigneur, a délivré le message de Monseigneur à Amourabi. Pendant que Yann Sibadou délivrait le message de Monseigneur, Amourabi, petite cassure, tout le temps qu'il délivra le message, ne cessa de l'écouter et n'ouvrit pas la bouche. Il resta très attentif jusqu'à ce qu'il eût terminé son message. Lorsque le message fut terminé, il nous adressa la parole en ces termes, etc. Alors, on peut comprendre ce texte de deux manières, qui ne sont d'ailleurs pas forcément contradictoires. Premièrement, ça veut dire que Yann Sibadou a été tellement habile qu'il a réussi à retenir l'attention d'Amourabi. C'est une façon de se faire valoir que d'écrire un tel compte-rendu. C'est bien possible. Mais l'insistance sur l'attention d'Amourabi et le fait qu'il a attendu jusqu'à la fin avant de prendre la parole montrent que les interruptions devaient quand même être le cas le plus fréquent. Et donc ceci nous permet de nous imaginer la façon dont les choses se passaient. C'est pourquoi, dans certains cas, en fonction de l'atmosphère de la rencontre, eh bien, les messagers gauchissaient plus ou moins les propos qu'ils étaient chargés d'exprimer. Alors, on voit aussi qu'ils pouvaient donner des informations complémentaires. Dans cette lettre, on nous dit « On m'a apporté une tablette scellée au nom d'Ibaladou. Le serviteur d'Ibaladou m'a donné en outre cette information orale, littéralement, il m'a parlé par la bouche. » Donc, on voit bien le côté complémentaire, tablette et puis information orale. À Babylone, la pratique des mariottes auprès d'Amourabi semble avoir été un peu particulière. Pendant les années où Zimrilim y avait des représentants permanents, eh bien, c'était eux qui étaient chargés de transmettre les messages qui étaient apportés par des messagers. Et Ibalpiel, donc, qui était à la tête des troupes mariottes qui sont restées en Babylonie pendant quelques années, écrit ceci. « Avant que n'arrive la tablette de Monseigneur, j'avais multiplié les demandes pour qu'il, c'est-à-dire Amourabi, envoie une troupe nombreuse et des barques. Maintenant, la tablette de Monseigneur est arrivée, et voici ce que j'ai dit à Amourabi. Comme ton frère te l'a demandé par lettre, envoie troupes et barques pour qu'il puisse prendre ses dispositions. L'ennemi est proche. Voilà ce que je lui ai dit, et lui m'a fait cette réponse-ci. » Et ensuite, on a la citation de la réponse. Donc on voit bien la distinction qui est faite entre les propos qu'Ibalpiel tient, je dirais, de sa propre autorité, en quelque sorte, et puis les propos ensuite qu'il tient à Amourabi en fonction de la lettre qui est arrivée depuis Marie et qui donne, bien entendu, à ce qu'il dit, beaucoup plus de force. Ce passage ne permet pas de savoir qui a lu à Amourabi la lettre de Zimrilim, mais Ibalpiel reproduit le commentaire qu'il a fait de sa propre initiative après la lecture de la tablette. Et du coup, il était très important que le représentant de Zimrilim soit à l'avance, au courant des lettres qui allaient être lues par devant Amourabi. Et donc, dans plusieurs cas, on voit des gens qui demandent au secrétaire du roi d'envoyer des doubles du courrier pour qu'ils puissent à l'avance en prendre connaissance. Et voici cet exemple. C'est Zimri Adou, un autre général mariotte en Babylonie, qui écrit donc à Shumuraralu, le secrétaire de Zimrilim. À Shumuraralu dit ceci, ainsi parle Zimri Adou, ton frère. Avant ton départ, je t'ai dit ceci. Fais-moi porter la tablette du roi et le coffret particulier qui doivent aller à Babylone, et fais-moi porter aussi la copie de la tablette qui doit aller chez Amourabi, afin que là-bas je puisse fournir une réponse appropriée. Donc on voit bien le souci. Si je sais le courrier qui va être lu, je pourrais me préparer à tous les cas de figure. À présent, la tablette du roi et le coffret particulier ne sont pas encore arrivés. Fais porter chez moi les tablettes du roi et le coffret particulier qui doivent aller à Babylone, ainsi que la copie de la tablette de Hammurabi. Et si la copie de la tablette ne me parvient pas, là-bas, je ne pourrai rien faire. Donc, on insiste bien sur l'importance de cela. En une occasion, une missive contenait des informations secrètes. Et il se trouve que, outre Ibalpiel, deux autres dignitaires mariottes eurent connaissance de cette lettre. Ils étaient sans doute présents au moment où Ibalpiel s'est fait lire à voix haute la tablette, et Ibalpiel est inquiet à l'idée que ses deux collègues puissent divulguer à l'extérieur le contenu de cette lettre, et ça n'est pas la seule fois que Ibalpiel se montre un maniaque du secret. Et une autre de ces lettres est encore plus détaillée sur la façon dont le courrier de Zimrilim était transmis au roi de Babylone. Je cite « Lorsque les tablettes de Monseigneur, que Monseigneur avait fait porter à l'attention de Hammurabi, me sont arrivées, la salutation, Shulmum, envers Hammurabi, et les instructions orales, Wurtum, une fois reçues, nous sortîmes. C'était le petit matin lorsque nous arrivâmes à la porte du palais. Les plantons faisaient entrer un messager du roi de Courda. Il est entré avec nous. J'arrivais à tenir séparé le messager du roi de Courda de la suite de Laoum et Telpichamash et autres serviteurs de Monseigneur, eux tous. Moi-même et Zimri Adou, comme, afin de dire quelque chose à Hammurabi, nous nous étions rapprochés de lui, il se trouva qu'Isharlim, Mouturatkim, Rimadou, serviteur d'Ishmedagan, qui participe au conseil secret, se tenait devant lui. Voici comment je l'entrepris, etc. » Alors ici, on a ensuite le discours que Ibalpiel prononce en présence de ces trois généraux d'Ishmedagan qui sont nommés Isharlim, Mouturatkim et Rimadou, mais sans que le messager du roi de Courda puisse l'entendre, j'arrivais à tenir séparé le messager du roi de Courda. Donc on est dans une période où il y a des troubles entre Courda et Marie, et donc le souci principal d'Ibalpiel, c'est que le roi de Courda ne sache pas ce qui s'est passé. Si je reviens au début de ce passage, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque en plus des lettres, on nous dit que le Shulmum est indiqué, en même temps, des indications orales, wurtum. Et ce terme de shulmum, ça désigne ici les formules de salutation dont je vous rappelle qu'elles n'étaient alors pas mises par écrit. Quand nous avons vu les bénédictions, nous avons vu que dans les lettres entre particuliers, c'était écrit, mais qu'elles étaient toujours absentes des lettres royales. Eh bien, en réalité, c'est certainement parce qu'elles étaient très développées, mais que pour économiser l'espace, eh bien, on ne jugeait pas nécessaire de les écrire. Et là, c'est une différence essentielle avec l'étiquette qui gouvernait la rédaction de la correspondance royale à l'époque médio-babylonienne. Si vous regardez les lettres retrouvées à El Amarna, par exemple, il y a des lettres dans lesquelles plus que toute la face de la tablette est remplie par des salutations « Puisse tout aller bien pour Monseigneur, pour sa femme, pour ses dignitaires, pour ses chars, pour ses chevaux. » Enfin, la liste ne s'arrête pas. Et puis des protestations également. « Cette fois et cette fois, je me suis prosterné aux pieds de Monseigneur. » Quand on écrit au pharaon, ça vaut mieux. Donc ça prend une place considérable. Tout ça, n'est-ce pas, ça ne figure pas par écrit. Et ce passage permet de comprendre ce que j'ai déjà cité dans une autre lettre de Zimri Adou. Les messagers d'Atamroum sont arrivés, et en remettant leur rapport, ils dirent une première fois « Ainsi parle Atamroum ton serviteur », et une autre fois ils dirent « Ainsi parle Atamroum ton fils ». En remettant leur rapport, ils font vraiment un beau mélange. Ceci ne s'explique que si ce type de salutation n'était pas écrit. Dans un certain nombre de cas, la lecture des messages ne se faisait pas lors d'une audience ouverte, mais en secret. On connaît ainsi les plaintes de Yamtsum lorsqu'il n'était plus admis au conseil secret de Rayasumu et donc qu'il n'entendait plus les nouvelles apportées par les messagers étrangers. Ce conseil secret... C'est le terme de pirishtum, littéralement secret, qui sert à le désigner. Et donc, il est bien évident que dans un cas de ce genre, il y a deux interprétations. Soit c'est un problème personnel qui oppose le roi étranger et le représentant Mariotte, ou bien il y a un véritable problème diplomatique. C'est difficile en l'occurrence de le savoir, mais Yamsoum explique une fois que Rayasumu refuse même de se faire lire en sa présence, y compris les lettres envoyées par Zimrilim lui-même. Monseigneur, donc non seulement les lettres envoyées par d'autres rois, mais même les lettres de Zimrilim. Monseigneur a fait porter une tablette à Rayasumu. Monseigneur m'a écrit ceci, qu'on ouvre la tablette devant toi, encore une fois, hein, ça veut dire qu'on l'extrait de l'enveloppe, et écoute-la, il, c'est-à-dire le roi Rayasumu, a reçu la tablette, mais je n'ai pas pu écouter le contenu de la tablette. Donc c'est le point le plus grave, n'est-ce pas, une façon d'insulter le représentant d'un roi étranger, et Yamsoum, évidemment, vivait cela extrêmement mal. Mais il est loin d'être le seul à devoir affronter des situations de ce genre. On le voit, par exemple, à Andarig, vers la fin de la mission de Yassimel. Donc Yassimel, on l'a déjà rencontré plusieurs fois, était le chef de la garnison Mariotte auprès d'Atamroum à Andarig, et à un moment donné, Atamroum part rejoindre Amurabi qui assiégeait Larsa, et manifestement, il change à ce moment-là d'allégeance et il devient non plus allié de Zimrilim, mais allié d'Amurabi de Babylone. Et du coup, Yassimel, régulièrement, n'est plus convié à des audiences lors desquelles les messagers babyloniens donnent les nouvelles à Atamroum. Et dans une autre lettre, le général Yassimel signale, en sens inverse, que le roi de Kourda entretient en secret des relations avec Ishmedagan, et il décrit ceci dans ces termes. « D'autre part, des messagers d'Ishmedagan résident à Kourda, ils se succèdent continuellement chez Amurabi, qui est le roi de Kourda de l'époque, et ces messagers, on les cache aux yeux des messagers de Monseigneur. » Alors que normalement les audiences sont publiques, eh bien là, au contraire, on a affaire à des audiences qui s'opèrent dans le secret et en essayant même de faire en sorte que les représentants de Zimrilim ne soient pas conscients qu'ils sont écartés de telles audiences. On a un très grand nombre de mentions de ce genre qui montrent bien qu'on est ici au nœud des relations diplomatiques. Alors, dans un registre un peu différent, on doit se rappeler les lettres dans lesquelles Samsiadou indique assez régulièrement à Yasmaradou en présence de qui sa lettre doit être lue. Alors, on peut dire que d'un côté, c'est un élément de plus de la mise en tutelle de Yasmaradou, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui permet de contrôler la circulation d'informations. Il y a des choses, en effet, dont on ne veut pas que tout le monde soit au courant. Et le cas le plus étonnant, c'est se trouve dans une lettre qu'Ishmedagan a envoyée à son frère. Il écrit ceci. « Je t'ai envoyé une petite tablette accompagnant cette tablette-ci. Écoute cette tablette-là et que les serviteurs qui se trouvent là-bas, Etelloum, Assiroum, Shumshuliter, Mutupinarim et Muturatkim, en prennent connaissance. » Autrement dit, ces cinq personnes vont écouter la lecture de la lettre. Mais Ishmedagan poursuit « Que seuls Isharlim et Apanadou prennent connaissance de cette tablette-ci. » Alors là, si on réfléchit un petit peu à la façon dont les choses vont se passer, on comprend que le secrétaire de Yasmaradou aura forcément pris connaissance de la lettre avant qu'il la lise à Yasmaradou, et donc c'est lui qui va ensuite organiser les choses. Il y a deux tablettes arrivées en même temps. La petite, qui est la moins détaillée, elle sera lue devant Yasmaradou et puis tous les autres, mais la tablette ARM 480 ne sera lue que devant Yasmaradou, Isharlim et Apanadou. Un autre exemple de lecture de tablettes secrètes est rapporté par Yassimel. Toujours lui. Donc, dans un premier temps, le général avait annoncé à Zimrilim qu'il avait bien reçu les tablettes secrètes que Zimrilim avait envoyées à Rimdiya, qui était le régent du royaume en l'absence de Atamroum, au moment où Atamroum était en Babylonie, comme je l'ai dit, mais qu'il n'a pas pu communiquer le contenu de ces lettres à Rimdiya. Il indique ensuite qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour que le secret ne soit pas divulgué. Et un peu plus tard, il a pu remplir sa mission et il en rencontre à son maître dans une lettre qui est rédigée au nom de Rimdiya et de Yassimel, parce que tous les deux étaient les destinataires de la missive de Zimrilim, dit à notre Seigneur, ainsi parlent Rimdiya et Yassimel, tes serviteurs. Et ensuite, la lettre se poursuit à la première personne, donc on voit bien que c'est en fait Yassimel qui est l'auteur réel de la missive. « J'ai fait entendre à Rimdiya la tablette secrète que notre Seigneur m'a fait porter. » Et donc, j'avais cité déjà ce passage à propos de la question de la lecture. Il est manifestement clair que le général Yassimel était capable de lire lui-même le courrier, et on comprend pourquoi, dans des situations de ce genre, il faut pouvoir se passer de la médiation d'un scribe. Et la question qui se pose, que j'avais déjà posée, c'est de savoir si cette lettre elle-même n'a pas été écrite en personne par Yassimel. Donc, si nous résumons ce qui a été dit à propos de la lecture des lettres envoyées par les rois, on voit que ce sont les messagers du roi, expéditeurs d'une lettre, qui en donnaient lecture au roi destinataire dans une audience publique, sauf cas particulier, lorsqu'on écarte certains messagers, mais ceci peut poser des problèmes diplomatiques. Et vous aurez remarqué que dans aucun des cas que nous avons vus aujourd'hui, dans aucun de ces cas, le secrétaire du roi qui reçoit la lettre n'apparaît. Nous verrons en effet, la semaine prochaine, que son rôle consistait à lire le courrier ordinaire du roi, c'est-à-dire celui qui était envoyé par les gouverneurs et autres fonctionnaires. Et la façon de procéder dans ce cas-là était tout à fait différente. Et c'est donc ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. De façon que la transition avec le